Alors, je suis ici avec le professeur Anthony Mazur, responsable de l'Institut de recherche en art et en design de la HED, donc la Haute École d'art et de design de Genève. On est là pour discuter de la conférence qui a lieu demain soir à Uni Dufour à 19h sur l'art et la culture à l'ère numérique. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, enchanté.
Enchanté. Alors, cette conférence s'inscrit dans tout un cycle de conférences, puis aussi un cours transversal, le tout afin de parler, de comprendre le numérique, ses impacts divers et variés dans la société. Parmi les univers qui sont bouleversés par le numérique, il y a l'art, donc. Il faut attendre à quoi, du coup, de cette conférence? De quoi elle va parler dans les grandes lignes?
J'espère qu'on va pouvoir, avec mes collègues invités, Sarah Kenderdine de l'EPFL et Françoise Benhamou de Sciences Po, Université de Lille, j'espère qu'à nous trois, on va pouvoir dessiner des trajectoires qui vont aider le public à mieux comprendre l'évolution du travail des artistes et aussi des galeries, des musées et aussi du public. Donc on va pouvoir distinguer entre tous ces acteurs dans une multitude de technologies qui ne cessent de se multiplier et de s'accélérer depuis ces dernières années.
Très bien. Donc si ça vous intéresse déjà, eh bien, vous pouvez encore prendre vos places. Et sur inscription, il y a encore des places disponibles. Ou sinon, la conférence sera à suivre en ligne sur uniche.ch/comprendre-le-numérique. Voilà, on vous invite bien sûr toutes et tous à aller voir ça. Alors, tout simplement pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par art numérique? Est-ce qu'un tableau classique affiché sur un écran, c'est de l'art numérique ou bien c'est un peu plus complexe que ça?
Ouais, c'est une appellation, à vrai dire, très controversée, art numérique, parce que ça renvoie à un médium d'expression. C'est comme si on disait art pictural, oui, enfin ça se dit d'ailleurs, de toute façon, on appelle ça peinture. À vrai dire, aujourd'hui, tout est numérique, donc dans un sens, plus rien ne l'est. Si vous regardez la plupart des œuvres d'art que vous les connaissez à travers des reproductions. Alors, avant, c'était dans des livres ou des revues. Maintenant, c'est sur écran. Donc, effectivement, la Joconde, je pense que la plupart des gens l'ont vu sur un écran. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est de l'art numérique? Je sais pas. On pourrait dire que c'est de l'art numérisé au sens où ça va être une reproduction de quelque chose de tangible qui existait auparavant. Ce qu'on peut appeler art numérique ou ce qu'on pourrait, moi, c'est pas une expression que j'apprécie vraiment, mais allez, j'essaye quand même. Ce serait plutôt des nouvelles formes d'art qui sont créées uniquement pour les écrans ou plutôt avec des moyens numériques, c'est-à-dire avec du code. Ça peut être autre chose que du visuel. Ça peut aussi être du son, de l'interaction, de l'animation, un mélange de tout ça.
Ok, donc on peut faire de l'art avec du binaire, alors.
Oui, alors un exemple plus concret, c'est le mouvement du net art dans les années 90, qui du coup détourne les techniques du web design, donc du code informatique conçu pour créer des sites web, pour proposer des expériences sur écran plus ou moins bizarres, plus ou moins loufoques. Un des collectifs les plus connus, c'est Jodi, jodi.org, qui du coup a fait plein de sites où on navigue dedans, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, et il y a des jeux entre ce qu'on voit à l'écran, le code source qu'on peut révéler, et du coup ça a été acquis par le MoMA, entre autres, et montré à Art Basel cette année, il y avait une rétrospective de jodi.org, ce qui fait que c'était consacré 30 ans après, en quelque sorte.
Ok, donc on voit très bien que le monde de l'art s'intéresse peu à peu à intégrer, en tout cas dans les conventions, dans les galeries, l'art numérique. Ça change aussi beaucoup le métier d'artiste. Qu'est-ce que ça change? Il y a des nouveaux artistes ou alors le métier a évolué pour tout le monde?
Oui, tout à fait. Je dirais que c'est un médium d'expression en plus qui peut se mélanger, qui ne va pas remplacer évidemment la sculpture, la peinture, la performance, le cinéma ou que sais-je. Mais tout ça s'hybride de plus en plus. Donc j'évoquais le net art. À vrai dire, les artistes ont dès le départ, quels que soient les médiums, investi des propositions techniques nouvelles. Donc j'ai parlé du net art, mais il y a bien d'autres choses. On pourrait aussi parler du machine learning, de la blockchain. À chaque fois, les artistes sont à l'avant-garde et vont révéler des dimensions que l'économie ou que le système, on va dire, capitaliste ou de production, tout seul, ne permet pas d'activer. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, des années d'écart, ça se réalise. Je peux vous donner l'exemple de Ben Grosser, qui est un artiste qui avait, il y a environ 10 ans, peut-être 15 ans, je ne sais pas, 10 ans peut-être, sinon ce n'est pas possible, créé un système qui permettait d'enlever toutes les statistiques de Twitter et de Facebook. Donc, on ne voyait plus le nombre de likes, on ne voyait plus le nombre de partages. Et ce qui est assez cocasse, c'est que du coup, maintenant, Instagram met ça en œuvre et Twitter aussi progressivement. Donc, ce qui était à la base une œuvre d'art un peu provocante pour mettre à jour les limites des dispositifs d'attention devient maintenant presque un argument marketing pour ces entreprises.
Et de toute manière, de tout temps, l'art a été souvent à la base de beaucoup de révolutions, beaucoup de courants de pensée. Ce n'est pas étonnant que ça soit aussi le cas dans le monde du numérique. Alors justement, dans tout ça, dans tout ce monde numérique, certains y voient, et son lien avec l'art, certains y voient une menace, pense que l'art se vit en présentiel, pour reprendre une expression un peu à la mode de nos jours, et d'autres plutôt une opportunité artistique. Du coup, si vous participez à ce site de conférence, puisque que vous avez dit juste avant, j'imagine que vous situez plutôt du côté des opportunités.
Oui, tout à fait. Moi, je ne pense pas qu'on puisse condamner des techniques aussi rapidement. Ce serait assez ridicule. Puis, il y a déjà une histoire qui est très riche de l'ère numérique qu'on peut faire remonter à au moins 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? On peut le dénier l'existence ou la légitimité de ce champ-là, mais je pense que, en tout cas, sur le plan institutionnel, c'est plié depuis longtemps. Enfin, la plupart des musées importants dans le monde ont acquis des œuvres de ce type-là. Et le paradigme de la présence, il me semble que déjà, il est ruiné depuis l'invention de la photographie et du cinéma il y a déjà plus de 100 ans. Donc, ce serait vraiment avoir une vision plus que nostalgique, rétrograde de l'art que de penser ça. Et même par rapport à l'unicité, c'est aussi un concept qu'on associe souvent à l'art. Bah, là aussi, la photographie et le cinéma ont mis ça à mal depuis très longtemps. Et les débats contemporains sur la blockchain, finalement, ne font que rejouer, d'une certaine manière, des choses beaucoup plus vieilles du passé.
Voilà, donc si vous êtes encore un petit peu sceptique sur l'art numérique, ben on vous invite encore une fois à aller checker un petit peu toutes ces conférences et puis pourquoi pas ce cours transversal. Vous pourriez en apprendre beaucoup. Du coup, vous avez dit aussi que les conférences allaient s'intéresser aussi à la problématique des musées. On a vu surtout pendant la pandémie, beaucoup de musées essayer de s'ouvrir un petit peu sur le numérique, proposer des visites en réalité virtuelle ou en tout cas des visites numériques de leur musée. Est-ce que c'est possible du coup de parvenir à recréer cette atmosphère particulière dans une version en ligne d'un musée ?
Ouais, c'est une question compliquée. Il y a une longue histoire des musées et des sites web et ça s'est évidemment beaucoup, beaucoup accéléré avec la pandémie. Maintenant, la question, c'est le musée, de toute façon, n'existe jamais que dans ses murs. Il y a déjà des collections qui sont en général dans d'autres sites, plein de dispositifs de médiation qui existent, qui ne sont pas uniquement sur site. Ça, c'est très vieux, des émissions de radio, de la télé, etc. Maintenant, la question, c'est est-ce que les musées doivent proposer une expérience de visite mimétique quand c'est en ligne ? Bah, moi, il me semble que non, c'est assez pauvre. Tout ce qui est visite 3D où on va recréer les pièces du musée, je vois pas trop l'intérêt. Il faut mieux proposer autre chose, des contenus complémentaires ou des expériences qui peuvent se vivre que sur écran. Un exemple en France, c'est le jeu de paume qui, déjà depuis quelques années, a ouvert une extension numérique dans laquelle sont invités des artistes à créer des performances ou des œuvres in situ pour les écrans, ce qui me semble bien plus intéressant que de scanner à grand renfort technique des collections existantes. Ça peut aussi avoir un intérêt, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là.
Ouais, c'est plus complémentaire qu'autre chose. Ça doit être plus complémentaire qu'autre chose.
Ouais, tout à fait. Bah, y a Google notamment qui, depuis des années, a numérisé beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art et on peut zoomer dedans avec des résolutions tout à fait impressionnantes. Voilà, pour les historiens d'art ou des personnes qui peuvent pas se dépasser, pourquoi pas, mais bah là, oui, comme c'est une reproduction mimétique d'une œuvre d'art tangible, si on peut, je pense que c'est mieux d'aller sur site.
Ça peut être aussi une porte d'entrée pour les gens qui sont un peu éloignés des musées où sont exposés les œuvres.
Et pour les chercheurs aussi, et chercheuses, c'est une opportunité intéressante. Et là, tous les musées n'ont pas les mêmes politiques. Certains vont restreindre la numérisation ou en tout cas les droits d'accès à ces copies numériques. Et d'autres musées, au contraire, en font des arguments marketing. C'est le cas du Rijksmuseum aux Pays-Bas et qui a mis en accès libre toutes ces numérisations d'œuvres. Et on voit que ça a finalement augmenté le public et assuré aux musées une notoriété, y compris dans le monde de la recherche. Parce que pour certaines œuvres qui existent dans plusieurs musées, comme les autres musées ont bloqué la reproduction, bah c'est toujours la copie, le fichier du Rijksmuseum qui va être reproduit, et ce qui fait que le musée est beaucoup plus cité dans les articles scientifiques.
Ok, intéressant, intéressant. Donc voilà un petit peu pour les musées. On entend aussi beaucoup parler d'e-commerce de l'art. Ça veut dire quoi ? Qu'on achète des œuvres d'art en ligne, comme on commande une nouvelle paire de baskets ou un plateau de sushi ? On reçoit son œuvre d'art par la poste après ? Est-ce qu'il y a de l'art sur Amazon ?
Oui, tout à fait. Alors, on a abordé le point de vue des artistes, des musées. Maintenant, on arrive sur les acheteurs et les acheteuses. Alors ça a été un grand défi, en fait, pour... j'ai évoqué tout à l'heure le net art. Comment on collectionne ça ? Il y a aussi des problèmes de préservation qui se posent parce que le code peut bugger et l'artiste n'est plus forcément là pour le remettre à niveau. Et comment on achète ça, sachant que c'est reproductible par défaut ? Disons que ce qui se passait auparavant, c'est que la galerie ou l'artiste certifiait un nombre de vidéos ou de copies du site web limité, mais sans garantie que ce soit vrai ou qu'il n'y ait pas de triche. Avec de l'invention de la blockchain notamment, donc ça c'est depuis 2009, on a la possibilité de certifier l'unicité ou en tout cas la quantité d'un asset numérique. Donc ça peut être une image, ça peut être un film, ça peut être un fichier, enfin n'importe quoi de numérique. Et c'est a priori infalsifiable et inviolable. Ça, c'est une grande révolution. Alors, à la base, la blockchain sert pour de la monnaie. L'application la plus connue, c'est le Bitcoin, qui apparaît la même année en 2009. Mais quelques années plus tard, notamment avec le protocole Ethereum en 2014, on a la possibilité de certifier d'autres choses que de la monnaie. Bah, la monnaie, c'est un bon exemple. Si vous avez un billet de 10 francs et que vous le donnez à quelqu'un, si vous l'avez encore quand vous le donnez, il existe deux fois, donc la valeur va se dévaluer. Il faut que le billet existe à un seul endroit pour qu'il puisse conserver sa valeur. Donc c'est la même chose, mais pour des œuvres d'art. Donc vous pouvez désormais vendre un fichier d'image, en tout cas le titre de propriété attaché au fichier d'image, et la personne qui l'achète a la certitude que du coup ça a été vendu une seule fois ou 10 fois si c'est annoncé
chaque,
comme ça.
Chaque
tel.
Action autour de chaque œuvre est donc inscrite dans la blockchain.
Exactement.
Et on peut à chaque fois remonter.
C'est un registre public de transactions. Voilà. Donc c'est tout à fait public et on peut voir que 006 a acheté tel fichier et l'a revendu à 007, etc. Okay. Et donc il y a des nouvelles places de marché qui apparaissent pour vendre ce type de fichier en ligne qui parfois peuvent s'échanger pour des sommes tout à fait délirantes qui peuvent dépasser des dizaines de millions de dollars.
Alors, c'était évident qu'on allait parler de la blockchain, c'était évident qu'on allait aussi parler donc, des NFT, qui est l'application directe à l'art de cette technologie. Donc, NFT pour Non-Fungible Token, un objet, donc on l'a dit, numérique, unique, incopiable, dont la propriété est identifiée. Donc, parmi tout ça, on a beaucoup donc, d'œuvres d'art numériques et tout cela s'achète, se vend, prend ou perd de la valeur, un peu comme les crypto-monnaies, justement, qui reposent sur la même technologie. Alors, les NFT, voilà quelque chose qui remet l'art, sa rareté, son unicité donc au centre du monde numérique. C'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait. Alors, au prix d'une grande consommation énergétique pour les formes dominantes de NFT qui sont basées sur le protocole Ethereum, Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des formes moins énergivores, beaucoup moins de blockchain, mais qui sont pour l'instant minoritaires. J'espère que ça pourra changer dans le futur. Et ce qui est intéressant avec les NFT, c'est qu'il y a plusieurs types d'artistes qui vont s'intéresser à ça. Ceux qui atteignent des sommes records sont des nouveaux types d'artistes qui ont émergé avec cette technologie blockchain, notamment Beeple, qui s'est fait connaître sur le réseau Instagram et dont une œuvre d'art a été vendue pour plusieurs centaines de milliers de dollars à un collectionneur singapourien qui a fait fortune dans les crypto-monnaies.
Donc on voit aussi que c'est des nouveaux types d'acheteurs. En NFT, alors.
Tout à fait. Et ça a été vendu par Christie's, ou Sotheby's, les confonds, pardon, il y a 2-3 ans. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des places de marché, des artistes qui viennent du monde de la crypto, qui sont très politisés, qui ont une culture très fine des milieux numériques. Et il y a aussi des artistes, entre guillemets, traditionnels, qui du coup voient une nouvelle opportunité pour vendre leurs œuvres, y compris des vétérans du NetArt, qui du coup, à 30 ans d'écart, trouvent une façon, enfin, de certifier et de commercialiser leurs travaux. Donc, c'est aussi une forme de légitimation ou de revival du NetArt qui restait relativement confidentiel et qui se voit démocratisé dans la communication, mais également dans la commercialisation grâce à ces nouvelles technologies.
Ok, donc démocratisation du NetArt, super, une très bonne chose. Par contre, vous avez dit aussi que du coup, il y avait tout ce monde-là qui venait du monde politique, du monde des crypto-monnaies qui venait un petit peu s'intéresser à tout ça. Est-ce que ce ne serait pas une pente glissante vers une sorte de spéculation financière sans autre intérêt pour la valeur artistique intrinsèque?
Ce serait valable, cette critique, si l'art traditionnel échappe à la spéculation, mais si n'importe qui a été Art Basel aura vu le contraire, où on voit des sommes totalement délirantes, on peut tout acheter. Moi, j'y suis allé cette année pour la première fois, et sur chaque stand, on demande des prix, et c'est absolument pas des NFT, et c'est beaucoup plus capitaliste que bien des entreprises. Donc, accuser les NFT de ce point de vue-là, ça me semble un peu spécieux, sauf à dire que l'art contemporain anti-capitaliste, qui je pense peut tout à fait soutenir, mais les NFT ne le sont pas plus que ce monde de l'art contemporain.
Est-ce que c'est une critique qu'on entend beaucoup, même sur les crypto-monnaies, que tout ça c'est de la spéculation, ça repose sur rien? Finalement, questionnons-nous un petit peu sur ce qu'est le reste de la société, le monde, monde numérique.
Tout dépend ce dont on parle. Si on prend l'exemple de la monnaie, aujourd'hui moins de 10% de la masse monétaire est sous forme tangible de pièces et de monnaie. Donc, de toute façon, la monnaie fiat, les monnaies fiat, c'est les monnaies d'État, donc le franc suisse, l'euro, le dollar, etc. Depuis bien longtemps, depuis la fin des accords de Bretton Woods dans les années 70, n'existe absolument plus sous forme tangible. Donc c'est des fichiers qu'on reproduit, ça crée des mécanismes d'inflation. Au contraire, le Bitcoin est déflationniste. Le nombre maximum d'unités Bitcoin est de 21 millions. On ne sait pas quand ça arrivera et c'est tout. Il ne pourra pas y en avoir d'autres. Donc ces monnaies sont nées des crises bancaires. Justement, Bitcoin est très politisé. C'est pour ça que c'est assez étrange de faire cette critique de spéculation sans interroger dans le même temps le système bancaire. Évidemment qu'il y a beaucoup de spéculation, mais à la base, c'est quand même une réponse politique concrète à un système bancaire défaillant.
Très bien. Donc, du coup, pour un petit peu la dernière partie de notre interview, on peut essayer de philosopher un peu plus. On peut aussi parler du coup d'intelligence artificielle, qui est aussi une technologie en plein développement. Est-ce qu'on peut imaginer, ou bien alors ça existe déjà, des œuvres d'art numériques entièrement réalisées par une intelligence artificielle?
Oui, ça existe. Alors, c'est un terme qu'on peut remonter aux années 1940 environ, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, disons depuis le début des années 2000, le courant dominant, c'est celui du deep learning, apprentissage profond qui comment dire...
Donc ça, c'est la machine qui apprend elle-même à trouver les problèmes qu'elle doit résoudre.
Exactement. Le programme est écrit par la machine et non plus par un être humain. Donc, on en utilise tous les jours sans le savoir pour trier les spams, pour les voitures autonomes comme Tesla, parce que c'est des choses trop complexes où on ne peut pas écrire les règles une par une pour arriver au résultat. Maintenant, ces technologies investissent les champs de la création, effectivement. Donc, on a dans le champ du design graphique, par exemple, des générateurs de logos, de grilles de sites web, de listes de caractères, pourquoi pas, qui ne donnent pas des choses très fines ou très inventives, parce que c'est, en fait, c'est des formidables machines à reproduire, mais pour inventer, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, ça crée une menace sur des champs qui se positionnent comme de l'exécution simple, où là, du coup, bah, la valeur achetée sur le marché devient de plus en plus faible. Maintenant, dans l'art contemporain, est-ce que c'est la machine qui crée ? Ça me semble un peu simpliste de dire ça, parce que même si le programme est écrit par la machine, il faut donner des données, des jeux de données, et puis orienter le programme d'une certaine façon, et ça, c'est fait par des êtres humains encore aujourd'hui. Je peux vous donner un exemple que je trouve le plus intéressant, qui va réunir NFT et machine learning. C'est l'artiste Boto, qui est un artiste décentralisé. En fait, c'est une communauté en ligne, on peut s'inscrire, je ne sais pas s'il faut payer pour rentrer. Chaque semaine, on est confronté à des œuvres d'art qui existent déjà, de musées divers, on vote pour nos préférés. Donc la machine apprend de cette sélection, génère à la façon d'eux ou en mélangeant ses styles des nouvelles œuvres. Et ces œuvres d'art sont après placées sur des places de marché en NFT, vendues à qui veut. Et les gains après sont redistribués en partie à la communauté à l'origine du robot.
Voilà, comme quoi tout est un petit peu lié. Et en parlant du coup donc de machine learning, d'intelligence artificielle qui parviennent même depuis un certain temps maintenant à créer ce qu'on pourrait appeler des formes d'art, on se demande souvent ce qui différencie l'être humain des autres animaux et puis ce qui le différencierait des robots. L'art et la capacité à en faire revient souvent. Ça fait appel au sentiment, à l'abstraction, à l'abstraction de l'esprit. Alors que se passe-t-il si un robot doté d'une IA est capable de produire de l'art à son tour aussi bien que l'homme ? Ce serait plutôt dans le futur, ça, du coup.
Non, tout à fait. Ce n'est pas forcément possible, mais ça dépend de quelle forme d'art on parle. Microsoft, en 2008, a créé un projet qui s'appelait The New Rembrandt, où ils ont créé un Rembrandt à la façon d'eux, un nouveau tableau. Mais finalement, oui, c'était assez crédible au niveau plastique. Mais par contre, créer une personne aussi inventive que Rembrandt est pour l'instant, a priori, insoluble. Je ne sais pas si on arrivera un jour. Et en tout cas, ce qui est intéressant avec les technologies numériques, ou les techniques même tout court, c'est qu'à chaque fois qu'une technique apparaît, elle redéfinit la notion d'humain. Et finalement, l'humain vient se définir en creux par contradiction ou par écart par rapport à cette technologie, et ça évolue tout le temps. Par exemple, vous pouvez se dire, bah voilà, un être humain, il est capable de calculer. Bah non, parce qu'un ordinateur le fait beaucoup plus vite. Et vous voyez, petit à petit, comme ça, la définition se déplace, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'art, ça va forcer les artistes à créer de nouvelles formes d'art et à se réinventer. Donc je vois plutôt comme une opportunité que comme un risque.
Voilà, on a encore un petit peu de marge avant que les robots savent tout faire et qu'on soit devenu complètement inutile.
Bah, un exemple concret, si on prend dans le champ domestique, paraît-il que pour faire un lit, ça prendra encore 40 ans pour qu'un robot puisse faire un lit.
40 ans.
Ouais, c'est très compliqué finalement, parce que les lits peuvent être de tailles différentes, les draps, c'est compliqué à agencer, etc.
Alors que pour la majorité des gens, faire un lit, c'est plus simple que de faire un Rembrandt.
Exactement. Et finalement, pour l'instant, on en est là. Donc on voit que les difficultés ne sont pas forcément là où on les pense.
Ok, bah c'est sur ces petites notes d'espoir que cette interview va toucher à sa fin. Donc on rappelle pour nos auditeurs, nos auditrices, les informations importantes. Le cycle de conférences Parlons du numérique qui a lieu en ce moment, avec notamment donc cette conférence demain à Uni Dufour sur l'art et la culture à l'ère du numérique. On rappelle, les places encore disponibles, ou sinon toutes les informations sur unis.ch/comprendre-le-numérique. Vous pourrez retrouver donc professeur Anthony Mazur qui a été avec nous ce soir. Merci professeur.
Oui, je voulais juste ajouter un petit mot. Vous allez recevoir mon collègue de l'INIGE qui s'occupe du cours Comprendre le numérique. J'aurai le plaisir d'animer avec lui au second semestre un atelier avec des étudiants et étudiantes de l'INIGE sur les NFT. Donc inscrivez-vous, je serai ravi de vous retrouver.